Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mail. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mail a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Pour ce nouvel épisode de Loin des clichés, je suis en studio avec deux nouvelles personnes qui sont là pour parler du mail et aussi présenter le parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, moi c'est Alpha et je suis suivi par l'association Le Mail.
Bonjour, moi c'est Laïla, je suis intervenante sociale et coordinatrice de parcours sur notre dispositif des appartements de coordination thérapeutique et également sur le dispositif des appartements de coordination thérapeutique hors les murs.
Alors Alpha, on va commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé avant d'arriver au Mail?
Oui, merci pour la question. Et avant d'arriver au Mail, moi je rappelle d'abord que je suis de nationalité guinéenne et je venais depuis quelques années régulièrement en France pour... soit le business ou bien des congés de temps en temps. Et je suis arrivé ici à Amiens en 2023 et je me suis senti un peu mal à l'aise du point de vue santé. Je me suis dit d'aller voir un médecin et je suis allé, c'était un samedi. Il y avait, comme moi je ne vis pas ici, normalement je n'ai pas de médecin traitant ni de... Voilà, je suis allé à SOS Médecin. Et pour me faire consulter. Après la consultation, le médecin il m'a demandé à faire un examen. C'était des examens de sang. Il a fait l'ordonnance et je suis allé à un laboratoire tout près pour me faire prélever. Après le prélèvement, normalement, c'était prévu que je repasse lundi vers 10h pour récupérer les résultats et les envoyer chez le médecin. Mais 30 minutes après, c'est le laborantin qui me rappelle. Et c'est vous, monsieur Alpha? J'ai dit oui. Et c'est vous qui avez déposé, c'est sur vous, on a fait le prélèvement tout de suite pour cet examen. J'ai dit oui. Il dit, OK, est-ce que vous pouvez venir au laboratoire reprendre vos résultats? Ou bien vous voulez qu'on vous envoie un ambulancier si vous ne pouvez pas vous déplacer? Je lui ai dit non, que je pouvais me déplacer. Je suis venu au laboratoire. Il m'a donné le résultat. Il m'a assommé d'aller directement voir le médecin. Chose faite, je suis reparti voir le médecin et après analyse du résultat, il m'a référé au CHU d'Amiens.
Donc et vous êtes allé aux urgences?
Bien sûr, il m'a référé aux urgences du CHU d'Amiens. Je suis allé parce que selon lui, c'était un peu compliqué, il fallait voir un spécialiste. Et je suis allé et on a fait quelques démarches administratives. Parce qu'il le fallait, j'ai pas d'assurance maladie ici, et voilà, j'étais de passage, je suis pas résident en France, donc je peux pas bénéficier de soins comme ça, voilà. Chose que je comprenais, parce que voilà, automatiquement je suis allé aux urgences. Après ces démarches administratives, ils m'ont admis. Et c'est là que j'ai rencontré un médecin du nom de Gourguechon Clément. Il est spécialiste en hématologie clinique au CHU d'Amiens.
Donc, pendant vos vacances en France, vous avez donc découvert que vous aviez une maladie du sang, c'est ça?
Bien sûr. C'est après que je suis rencontré ce médecin. Il a fait un traitement ce jour, mais il fallait faire des examens plus approfondis afin de se rassurer de quoi il s'agissait. Lui, il avait des soupçons. Vu le diagnostic préliminaire qu'il a fait sur moi et les examens qui se sont présentés tout de suite là, il avait déjà des soupçons. Mais il ne pouvait pas les confirmer tant qu'il ne faisait pas des examens plus approfondis et plus spécialisés. Et c'est pourquoi il m'a convoqué de repasser les lundis. Je suis revenu lundi, il m'a orienté après aussi des démarches administratives avec l'assistante sociale, bien entendu, de l'hôpital. Il fallait le faire et il m'a orienté vers la centrale de prélèvement. Mmh. Du CHU, afin de faire des prélèvements et faire des examens plus approfondis et plus spécialisés, afin qu'il se rassure de quoi il s'agissait. Après ce résultat, il m'a convoqué une deuxième fois. Je suis reparti, il m'a fait comprendre que j'étais atteint d'une leucémie. Une leucémie LMC, c'est une leucémie myéloïde chronique.
D'accord.
Ça nécessitait... C'est un type de cancer. C'est un type de cancer de sang. Et voilà, il m'a fait comprendre, il m'a montré des documents qu'il fallait voir, étudier, savoir c'était quoi cette leucémie, et comment ça se présentait, et quels sont les mâles que ça donnait. Et déjà, moi, je les vivais depuis, sans savoir qu'il s'agissait d'une leucémie. Donc, c'était pour moi plus facile de lire et faire une relation entre la lecture et le vécu.
Bien sûr, de comprendre.
Et de comprendre. Donc, ça continuait comme ça. Il m'a fait une ordonnance. Je suis allé à la pharmacie acheter le médicament et commencer déjà à le prendre. Et après, je lui ai fait comprendre que moi, je devais rentrer en Guinée parce que j'avais ma famille qui y vit et j'ai aussi mon travail qui m'attend. J'ai des obligations de travail, donc je dois retourner. Il m'a dit que ça nécessitait un suivi plus spécialisé. Normalement, il faut attendre une semaine après, deux semaines après, un mois, faire échelonner comme ça les rencontres avec le médecin et les examens afin qu'il puisse savoir est-ce que la maladie évolue, de quel côté ça évolue. Mais malheureusement, je ne pouvais pas rester. Ce que je pouvais faire, c'était d'acheter le médicament et de rentrer avec et d'espérer revenir une autre fois, peut-être espérant que ça ne soit pas trop tard. Et voilà, c'est comme ça s'est passé. Donc, je suis rentré au pays.
Donc vous êtes reparti.
Je suis reparti. Je vous signale que le médicament que j'ai appelé, que j'ai acheté, il coûtait 750 euros. 750 euros, c'est
non remboursé, du coup.
Non remboursé parce que je suis pas couvert par la couverture maladie d'ici.
Bien sûr.
Et donc je suis rentré et j'ai continué à prendre le médicament. Ce que le médecin il a fait, il m'avait demandé s'il y avait une structure spécialisée de ce genre au pays pour voir est-ce que je pouvais me faire traiter chez moi. Donc moi, je ne connaissais pas s'il y avait une structure de ce genre. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais qu'à mon retour, j'allais m'informer au niveau du CHU de Conakry, voir si c'était possible que je me fasse traiter chez moi. Il dit d'accord de le tenir informé parce que j'avais son adresse email.
Bien sûr.
Je pouvais l'écrire. Et je suis rentré au pays. Et un an plus tard, je suis revenu en France pour aussi les mêmes objectifs, le business,
pour le
rencontrer les partenaires et parfois les amis ou la famille. Je me suis dit encore de repasser. C'était pas destiné à Amiens. Mon voyage, c'était pas pour Amiens. Normalement, je devais aller à Strasbourg.
Mm-hmm.
Après ce que j'avais à faire, je me suis dit de repasser à Amiens, essayer de rencontrer le médecin. J'ai demandé rendez-vous avec lui pour une consultation. Et je suis venu le voir. Il m'a consulté. Il a vu que ça n'avait pas évolué. Donc, la maladie, ça n'avait pas évolué. Juste maintenant, ça...
Donc, bonne nouvelle.
Parce que je ne prenais pas de médicaments régulièrement. Et je suis allé au pays, j'ai essayé de rencontrer des hématologues, mais ce n'était pas aussi ça. Le médicament qu'on donnait là-bas, c'était un médicament, je vois, gratuit, qu'on gagnait de façon disproportionnée. Parfois, il pouvait ne pas être présent, parce que c'est quelque chose qu'on donnait.
Oui.
Tu ne peux pas demander à celui qui te donne de l'envoyer maintenant que c'est fini, il faut envoyer. C'était un peu compliqué, c'est quand c'est présent. On le prend. Quand ce n'est pas prêt, et quand on ne l'a pas, on ne peut pas le prendre.
Bien sûr.
Et je lui ai fait comprendre que j'ai rencontré un médecin, mais que le médicament il n'était pas disponible chez nous. Et les examens que je faisais, parfois je faisais une photo du résultat, j'envoie au médecin d'ici, il les examine, il me dit toujours que voilà, ça n'évolue pas. Quand je suis revenu, il m'a fait encore les mêmes diagnostics et il m'a proposé peut-être de voir s'il y avait une possibilité de me faire traiter ici.
Ok.
J'ai dit, ouais, mais écoutez, mais docteur, non seulement le médicament coûte cher, mais aussi les examens et même la consultation chez vous, elle coûte cher. Donc, parce que moi, je faisais un virement au CHU.
Oui.
Et quand je faisais soit les examens, soit la consultation et tout, c'est le CHU qui m'envoyait à travers un cousin que j'ai ici, sa boîte de réception de courrier.
Mm-hmm.
Il m'envoyait les factures Et lui, il prenait ses factures, il les photographiait, il m'envoyait au pays. Mmh. Et moi, à travers ma banque, je faisais un virement. Et c'est ce qui déjà a fait beaucoup de confiance entre le médecin et moi. Mmh. Parce qu'il m'avait demandé au début, « Monsieur, comment est-ce que vous allez payer vos factures ?» Étant en Guinée, j'ai dit, « Je vais faire des virements, je vais payer. Ce sont des factures que je dois. Tant que je peux, je dois les payer. »
Bien sûr.
Voilà, donc j'ai fait des virements. Et après, il a constaté que le service de facturation ne l'a pas interpellé par rapport à son patient. Mmh. Pourquoi ? Parce que je me suis acquitté de ça. C'était une fierté pour lui. Parce qu'au début, il était dubitatif. Comment me prendre ? Est-ce que j'allais rembourser ? Est-ce que j'allais pas ? Et tout. Mmh. Et c'était un peu compliqué. Mmh. C'est comme ça a continué en 2024. Aussi, je suis revenu, je pense, une deuxième fois, toujours en 2024. Et c'était un peu compliqué, je me sentais un peu plus fatigué, les articulations me faisaient beaucoup mal. Je me suis dit de ne pas attendre trop tard. Je suis venu et en septembre 2024, je suis venu aussi en vacances avec ma jeune fille. Je me suis dit de prendre aussi un rendez-vous avec le médecin, d'aller le voir. Et c'était une opportunité pour ma fille. Je lui racontais souvent que j'avais un médecin en France. C'était une opportunité pour elle de le voir, de le toucher, de savoir que c'est celui-ci qui s'occupe de son père, de sa santé. C'était une fierté pour moi de faire ça parce que cette fille, j'ai plusieurs enfants, mais je l'aime beaucoup. Ce qui fait que même en Guinée, quand je vais au boulot, je pars avec elle de temps en temps. Si je vais en vacances chez nous, bien sûr, je pars avec elle. C'est pourquoi j'ai profité. Quand j'ai eu l'opportunité de venir avec elle en France pour faire les vacances, je suis venu.
Vous l'avez amené.
Mmh. Et j'ai fait aussi la consultation, mais le médecin il m'a dit que ça n'évoluait pas.
Ok.
Ça n'évoluait pas, et voilà. Mais je continuais à acheter le médicament si c'est possible, si j'ai les moyens. Je retourne, je continue mon travail, je suis auprès de la famille. Mais c'était compliqué. Néanmoins, j'ai décidé de retourner parce que j'étais aussi avec la petite. Je ne pouvais pas non plus dire que je pouvais rester ici. Non, ce n'était pas possible. Parce que le médecin, lui, il a vu mon état, c'était compliqué.
D'accord.
Il m'a dit, monsieur, il va falloir que vous preniez une décision par rapport à votre maladie. Puisque vous n'avez pas un traitement adéquat chez vous. J'ai dit, ouais, je vois, mais je vais faire comme je suis en train de le faire, la navette. Ça ne va pas, quand je vois que ça ne va vraiment pas, je vais venir faire un traitement et repartir.
Okay.
C'est comme ça que j'ai continué, oui, jusqu'en fin 2024.
Jusqu'en fin 2024. Et ouais. Jusqu'en fin 2024, qu'est-ce qui se passe après ? Vous avez pris une décision ?
Et après, je suis reparti en Guinée, j'ai continué le travail, mais ça trouvait que ça n'allait que de mal en pire. La maladie continuait je pesais moins, je ne mangeais pas, j'avais toujours des courbatures, des fatigues au niveau des articulations. Ça me faisait énormément mal.
Bien sûr.
Et je ne pouvais plus continuer à travailler. Donc, je sais que si je ne continue pas à travailler, je ne pouvais pas non plus payer mes factures pour l'hospitalisation ici. Je ne pouvais pas non plus prendre soin de mes enfants, de leur scolarité, de leur hébergement et tout. Je ne pouvais pas.
Bien sûr.
Donc, pendant 3 ou 4 mois, je ne pouvais pas aller au travail. Et je ne dormais pas non plus tranquillement. Mm. C'est bien que j'avais des économies, puisque je travaillais, j'avais des économies que j'utilisais, mais ça ne pouvait pas continuer longtemps. Et j'ai essayé, je me suis dit d'aller soit à Dakar. Dakar, ce n'était pas loin, c'est au Sénégal, c'est un pays voisin. Et je me suis dit d'aller au Maroc, c'était loin, je n'avais pas de parents, c'était un peu compliqué. Au finish, et ma femme, parce que souvent elle a un mot à dire sur ma vie, je lui ai posé le cas. Elle me dit, pourquoi ne pas aller en France ? Peut-être parce que tu sais que tu as un médecin déjà là-bas qui t'a dépisté de cette maladie et qui connaît mieux ta maladie. Pourquoi ne pas aller en France ? J'ai dit, si je vais en France, je serai loin de vous. Et j'aurai beaucoup d'autres problèmes que je ne pourrais pas vous expliquer au début. Parce que la France, ce n'est pas mon pays. Moi, je n'ai pas de documents administratifs pour me permettre de vivre là-bas non plus. Donc, aller là-bas, ce serait couper avec vous pendant un bon moment. Est-ce que toi, tu es d'accord ? Elle dit oui pour ta santé, oui. Parce que c'est si tu vis qu'on pourra rester ensemble. Mais si tu ne vis pas, je t'aurais perdu de bon. Donc, moi, je préfère que tu ailles pendant un moment, que je sois coupé de toi pendant un moment. Si tu regagnes ta santé, tu seras à moi. C'est comme ça qu'elle m'a convaincu. Et en septembre, le 31 août 2025, j'ai pris mon vol pour la France. Je suis arrivé ici. Avant d'arriver, j'ai pris déjà aussi un rendez-vous au CHU parce qu'on ne peut pas descendre comme ça au CHU et espérer voir un médecin. J'ai pris un rendez-vous. Il m'a calé le 3 septembre. Et moi, je suis arrivé ici le 1er septembre. Et voilà, le 3, je suis allé le voir à 9h. Il a vu mon état. C'était vraiment compliqué. Et mon taux d'hémoglobine était à varier entre 6 et 7. Ce qui devait être normalement entre 13 et 17. Mm. Et moi, je me retrouve avec 7 maximum. Et il y avait urgence de faire un traitement. Et je n'avais pas de documents administratifs me permettant d'être suivi à l'hôpital. Il y a la loi qui c'est un peu compliqué. L'administration, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout dans le monde.
Bien sûr. Et
voilà, là, il a commencé à me prescrire des médicaments, mais on ne pouvait pas me donner des médicaments à partir de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il fallait une procédure, parce qu'il fallait rester là pendant minimum 90 jours et avoir l'AME et tout. Il m'a demandé avant, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes décidé maintenant de rester ? J'ai dit, docteur, moi, j'ai pas le choix. Si j'ai laissé ma famille, si j'ai laissé mon travail, qui me permettait de vivre et de bien vivre,
bien sûr.
Et je me suis dit de venir, c'est parce que ça ne va pas. Et j'avais un poids qui atteignait difficilement les 50. Il le sait. Quelqu'un qui a plus de 30, 35 ans, qui avoisine les 40 ans, normalement, c'est quelqu'un qui doit avoir minimum 60 kg, minimum.
Oui, bien sûr.
Donc, si je me retrouve avec 50, je ne mangeais pas régulièrement, ma faim, et j'avais le ventre qui était enflé, parce qu'il y avait une rate qui a pris 3/4 du ventre. Tout était enflé, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas bien manger, je ne pouvais pas même me coucher et dormir. J'avais mal, c'était catastrophique pour moi. Et on a continué, il y avait des démarches, on a fait les démarches qu'il faut afin que je puisse avoir droit à un traitement. Et ce qui a commencé maintenant, et après quelques moments, voilà, ça va. Ça va, je dis alhamdoulilah, je dis Dieu merci.
Ça va mieux.
Oui, ça va beaucoup mieux.
Ça va mieux. Vous êtes suivi en France avec le même médecin.
Avec toujours le même médecin. Je n'ai pas changé de médecin. Et il est hyper gentil avec moi. Je dirais qu'il est plus qu'un frère pour moi. Mm. Il est plus qu'un frère. Parce que là, depuis, il me suit régulièrement. Avant, dès mon arrivée, quand il a constaté que mon taux d'hémoglobine était à 7, il fallait faire une transfusion sanguine. Chose que j'ai faite à l'hôpital du jour, toujours au CHU d'Amiens. J'ai pris 3 séances de transfusion sanguine, ce qui me permettait de remonter un peu et avant d'avoir le droit de prendre le médicament. Et j'ai commencé à prendre le médicament. Maintenant, je me sens bien. Je dors bien. J'ai moins mal aux articulations. J'ai moins de maux de tête. Voilà, ça va, le ventre qui était enflé. Ma maman, quand elle touchait mon ventre, elle pensait à une opération chirurgicale. Et maintenant, il n'y a absolument rien.
Ça
tout va
mieux.
Bien sur le ventre, voilà, ça va. Mmh. Je dis Dieu merci.
Alors, on est aussi ici avec Leïla. C'est quoi, justement, le service d'accompagnement hors les murs pour lequel tu travailles ?
Alors, le service d'appartement de coordination thérapeutique hors les murs est un dispositif d'accompagnement global et pluridisciplinaire, médico-psychosociaux. Il est destiné à des personnes en situation de vulnérabilité précaire et notamment porteuses d'une maladie chronique et également confrontées à des difficultés d'accès aux soins sociales et administratives. Or, les murs signifient que l'accompagnement ne dépend pas d'un lieu unique. C'est essentiellement le aller vers. Les personnes accompagnées peuvent vivre dans leur propre logement ou être hébergées en hébergement d'urgence, en CHRS, ou même parfois vivre à la rue. C'était le cas pour Alpha. Le service s'adapte au lieu de vie de la personne et Alpha, peux-tu nous dire comment tu es arrivée au sein de notre dispositif?
Merci, Madame Leïla. Et je disais que c'est ce médecin du CHU Amiens, Dr Clément Gourguechon, qui a fait les premiers pas. Il m'a montré une assistante sociale de l'hôpital. C'est avec celle-ci, c'est celle-ci qui a fait le dossier. Parce que moi, je ne savais pas qu'à Amiens existait une association de telle envergure qui pouvait s'occuper des personnes qui ayant des situations peut-être d'handicap ou bien de vulnérabilité jusqu'à ce point, ou bien des maladies chroniques. Donc, c'est l'assistante sociale du CHU qui a fait les démarches tout en envoyant mon dossier à votre association. Et ensuite, j'ai été contacté par des personnes qui travaillent dans cette association, me fixant un rendez-vous de d'évaluation de ma situation, donc qui pour moi était un peu long pour un début, parce que moi je croyais que tout allait se passer dans les jours à venir, demain après-demain. Et au contraire, il y avait un agenda qu'il fallait respecter parce que déjà ces personnes avaient d'autres obligations aussi. Donc il a fallu que j'attende une dizaine de jours pour rencontrer ces personnes. Et c'était une travailleuse sociale qui est extraordinaire et une infirmière dont je donne un coup de pouce. Vraiment, les deux dames m'ont écouté avec, je pense, un jeune aussi qui était assistant de l'infirmière. Et ça a été un moment pour moi d'abord d'extérioriser ma situation, parce que depuis que je suis venu, je n'avais pas une personne à laquelle me confier. Donc j'ai expliqué de long en large ce que je vis au quotidien, ce que j'endure. Voilà, ces personnes m'ont écouté attentivement et m'ont compris. Et après, elles m'ont dit qu'elles vont me recontacter pour voir si toutefois ma situation a été acceptée chez eux. Ce qui fut fait, quelques jours plus tard, ils m'ont contacté. Voilà, monsieur Alpha, et voilà, après une séance d'entretien avec nos supérieurs hiérarchiques, on a décidé, en fin de compte, d'instruire votre dossier. Donc, vous êtes retenu, je suis revenu, on a fait un contrat. Je pense qu'ils ont des documents, moi aussi j'en ai d'autres. Voilà, tout est parti comme ça.
D'accord, et... C'est quoi les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant tout ce parcours, et notamment, je pense, à l'accès aux soins, peut-être?
Et les difficultés, il y en a de deux à trois ordres. Le premier, c'était d'abord de venir dans un pays où on n'était pas habitué à vivre. La température et le climat ne me permettaient pas, moi, de m'adapter, parce que chez moi, le plus bas, c'était 25 degrés. 20-25 degrés. Et je viens ici, ça trouve qu'on est dans moins de 10 degrés, environ 10 degrés, 5-7. Donc c'était un peu compliqué d'abord. Et surtout que je vivais dans la rue. Je n'avais pas un toit, je n'avais pas quelque part où rester. Donc la première difficulté, c'était celle-ci, liée au climat. Ensuite, la deuxième difficulté, c'était celle liée à l'accès aux médicaments. Pour un début, vous savez, je suis une personne qui est venue ici, j'ai pas de droit. J'ai pas de droit. D'habitude, je payais mes factures et maintenant, je suis venu cette fois-ci. J'ai décidé de rester parce que j'avais pas un bon traitement chez moi. Donc, au CHU, tant qu'on n'a pas les droits, tant qu'on ne fait pas 90 jours sur le territoire français, normalement, d'après les lois, j'ai pas accès à un traitement adéquat. Et il a fallu que le médecin fasse des gymnastiques. Parfois, il ne fait que ce qui est nécessaire pour moi, parce qu'il sait, après, les factures vont tomber, ce serait moi qui allais supporter ces factures. Et l'accès aux soins a été vraiment une difficulté. C'est le deuxième ordre. Le troisième, c'est l'éloignement de ma famille. Donc, je ne suis pas habitué depuis mon enfance, tout petit. Je ne suis pas habitué à rester longtemps sans la famille. Maximum, le temps que j'ai fait ailleurs ne dépasse pas 2 semaines. Quand je venais, je ne faisais pas plus de 2 semaines ici. Et quand je partais ailleurs aussi, je ne faisais pas plus de 2 semaines, parce que j'avais non seulement mes enfants, mais aussi mon travail qui ne me permettait pas d'aller loin. Et ici, je me suis senti un peu isolé. Et je me suis senti vraiment dans des difficultés de faire le quotidien, le ménage, la cuisine. Je ne suis pas habitué à ça, même à la fac, moi, je ne préparais pas. Donc, c'était un peu compliqué. C'est tout ça, c'est la nostalgie de mes enfants et surtout de ma femme. Et voilà, voilà les difficultés auxquelles je pourrais prendre en somme, sinon il y en a un peu de tout.
Ouais. J'imagine. Mmh. Et est-ce que votre situation s'est améliorée aujourd'hui? Comment vous vous sentez au niveau... Est-ce que vous sentez que vous arrivez à combattre toutes ces difficultés?
Et oui. Et l'Internet d'abord, je commence par là où ça fait plus mal. L'éloignement de ma famille. L'Internet me permet d'être en contact sur tous les 24 heures avec ma femme et mes enfants. Donc ça, c'est un acquis. En plus, le fait que j'ai rencontré cette association m'a permis d'avoir accès à l'administration, aux différentes structures administratives ici. Pour preuve, j'ai une facture globale de 3 666 € à payer pour les premiers soins quand je n'avais pas les droits. Et c'est cette association avec cette dame, dont je ne tairai pas le nom, qui est Madame Leïla Boukhalfa, qui a entamé des procédures d'aide, d'assistance, qui m'ont permis quand même de diminuer à hauteur de 1 500 € à nos jours pour cette facture globale. Et maintenant, je me retrouve avec une facture de 2 000. Et je sais qu'elle va aussi booster. La manière dont elle a fait, c'est comme si elle avait enlevé l'argent de sa poche pour m'aider. Parce que sinon, moi seul, je ne savais pas à quelle porte il fallait taper, comment il fallait faire des démarches pour pouvoir avoir de l'aide. D'autres, il y en a des personnes qui veulent bien aider, mais qui aider? Et comment, si toutefois tu ne sais pas où aller, c'est un peu compliqué. Mais ma rencontre avec cette association vraiment m'a ouvert les portes. D'abord, sur tout le côté administratif, elle m'accompagne. Sur le côté psychosocial aussi, elle m'accompagne avec ses collègues psychologues et infirmières. Je me sens chez moi quand je suis au Mail. Ouais.
Et si on parle, ce sera peut-être ma dernière question, si on parle de vos perspectives pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Comme tout jeune qui veut vraiment se battre, si moi je recouvre ma santé comme d'habitude, déjà ce qui est sur le chemin, je vais d'abord m'intégrer. Je vais m'intégrer puisque je suis peut-être capable de faire quand même quelque chose pour survivre. Donc, mes perspectives à court, à moyen et à long terme, ce serait de m'intégrer, faire des formations, chercher un boulot et éventuellement faire en sorte que je sois proche de ma famille.
Bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur Radio Campus Amiens. Tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je voulais vraiment remercier ici une personne. C'est Dr Clément Courguechon. Il a été pour moi comme un père. Il a été pour moi comme un frère. Ce qu'il a fait, il n'était pas obligé. Mais même cette veste que je porte aujourd'hui, c'est lui qui me l'a offert. Imaginez le reste. Il a pris de l'argent de sa poche pour m'acheter à manger quand je vivais dans la rue. Il n'était pas obligé de le faire. Je ne parlerai pas du reste. Parce que je sais qu'il sera affecté quand il l'entendra. Je ne dirai pas plus. Mais je prie que tous les services aient des personnes comme lui. Il a été pour moi comme mon propre père. Je le remercie du fond de mon cœur. Merci.
C'est un très beau message. C'est vraiment un très beau message pour finir cette émission. Merci à vous. Merci Leïla. Merci Alpha d'être venu témoigner. Et pour avoir délivré ce message aussi de gratitude, d'espoir. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur.
Merci. Merci, madame.
Merci.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement...
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment, et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Compose-toi bien, ma chérie. À bientôt, je t'embrasse.
Merci pour le cadeau.
Tu vas manger, vas-y, viens, je t'attends.
Allez, on a voiture.
On a rien.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot.
Rends-lui, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour ça.
Où passe, mon ref?
D'abord, on va à la séance de 19h30.
C'était mal à la folie, ma maman, d'abord.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemail.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Mail. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. A très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens.